Occitanie, terre d'extase. Extase, parce qu'il nous arrive à tous d'être à ce point admiratif d'un site naturel, d'un édifice, d'une œuvre d'art, que nous nous en oublions nous-mêmes. Mots et merveilles d'Occitanie. Avec le magnifique ouvrage de l'auteur et photographe Jean-Paul Azam, paru aux éditions Le Papillon Rouge, nous allons d'extase en extase, fidèle au titre de cette émission. Il s'agit cette fois de la fascination qu'ont éprouvé des écrivains, pour certains natifs d'Occitanie, pour d'autres de passage dans notre région. Chacun des 8 chapitres du livre offre un voyage littéraire et photographique à travers l'Occitanie, d'est en ouest, du nord au sud. Jean-Paul Azam, l'auteur, précise son intention en début d'ouvrage, faire découvrir l'Occitanie à travers le regard et les mots d'une centaine de grands auteurs inspirés par ces paysages grandioses. Fondateur avec Alice Dorc des éditions Le Papillon Rouge, Hubert Delobette le rappelle, c'est la toute première fois qu'est publié un ouvrage sur ce thème en Occitanie. On y retrouve plus de 100 textes de grandes plumes de la littérature française et même mondiale puisqu'il y a 8 étrangers, louant la beauté et les sites de notre région. Cela commence donc dans le Languedoc littoral du Gard provençal au pays catalan. Nous emboîtons le pas à des écrivains aussi différents que Ernest Hemingway, Jean Racine, André Gide, Jean-Jacques Rousseau et Joseph Delteil notamment. Ils ont en commun d'avoir vécu en Languedoc, d'y être nés ou de l'avoir seulement visité, d'y être passé. Vincent Van Gogh écrit à son frère Théo. La Méditerranée a une couleur comme les maquereaux, c'est-à-dire changeante. On ne sait pas toujours si c'est vert ou violet, on ne sait pas toujours si c'est bleu, car la seconde d'après, le reflet changeant a pris une teinte rose ou grise.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume au mon vieux tabellion et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis et des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Mon caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. Juste au bord de la mer, à deux pas des flots bleus, creusez si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche. Auprès de mes amis d'enfance les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin, parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Tantôt venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil verseront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sartane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus, si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur possible. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu, gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquence. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Arrivé en pays catalan, Jean-Paul Azam cite Roger Blandinière, auteur d'un livre intitulé « Le Canigou ». Fierté des Catalans, ô majestueuse montagne, nous pouvons t'admirer de Canet à la Cerdagne, tel un sémaphore veillant sur ses marins. Tu es là pour nous guider sur ce chemin. Dans ce chapitre, Maurice Druon, l'auteur des Rois maudits, côtoie Rudyard Kipling, le poète Paul Fort et Claude Simon. Un peu plus loin, dans l'anthologie, Gustave Flaubert raconte sa visite de la cité de Carcassonne à la faveur d'un voyage dans les Pyrénées entrepris en 1840. « Je passe le pont, je monte à cette ancienne ville, il me semble monter à l'assaut. Enfin, cette idée me vient que je suis au milieu d'une ville du XVe siècle. » Son récit fait écho à celui qu'en fera le poète Joé Bousquet à travers son personnage de Jean tout petit quand il évoque la cité. Elle se dresse sur une colline. C'est une espèce de ville close qui ressemble à un point fermé. Ses tours sont plus serrées que les grains d'un chapelet. Magnifique passage aussi que la traversée des Cévennes dont l'écrivain André Chanson écrit les premiers mots. Nous trouvons ici le mot qui nous livre le secret de nos Cévennes, le mot qui est gravé sur la pierre de la tour de Constance et que le vent semble siffler sur les roches ou dans les herbes dures de nos hautes crêtes, par-delà le jardin de Dieu, sur les hauteurs de l'Égual et de la Fajolle, le mot que l'on répète aux petits-enfants dans toutes les maisons de nos vallées, le mot qui semble inscrit dans ce vallon et dans ce petit village, résister. Mais les Cévennes, c'est aussi Jean-Pierre Chabrol, résistant justement, écrivain et journaliste, qui a renouvelé le temps des veillées sur le petit écran. Ce sont aussi Jean Carrière et l'écrivain randonneur Robert Louis Stevenson. Au chapitre « Gorge et Causse », Jean-Paul Azam nous entraîne sur les pas de Simone de Beauvoir et de François Mitterrand, qui aimait le Larzac. Et aussi de Julien Gracq, formidable géographe et auteur dont la langue possède la minéralité parfaite des paysages qu'il décrit. Écoutons-le s'émerveiller sur le Causse dans ses carnets du Grand Chemin. Le Tarn, pareil à un éclat de pierre, au fond du creuset calciné, on sent que toute l'énorme masse surplombante du Causse s'est essorée jusqu'à la dernière goutte au profit non pas de cette eau avare et presque tarie, mais plutôt de cette huile essentielle qui suinte précieuse et concentrée au creux de la gorge comme le dernier pleur du pressoir. Thank you. Autre auteur féru de marche, Jacques Lacarrière écrit dans « Chemin faisant » le récit de sa traversée de la France à pied, depuis les Vosges jusque dans les Corbières. Je ne souhaite rien d'autre par ce livre que redonner à son lecteur le goût des herbes et des chemins, le besoin de musarder dans l'imprévu, de retrouver ses racines dans le grand message de ses horizons. Des causses à la Margeride, l'Aubrac et le Rouergue, il ne faut que quelques battements d'ailes au circaète Jean Leblanc. Nous y rencontrons Paul Éluard, qui trouva refuge pendant la Résistance, et c'est encore Julien Gracq qui sait parler comme nul autre de ce pays dans le ciel, illustrant l'infini. Une attraction sans violence, mais difficilement résistible, me ramène d'année en année, encore et encore, vers les hautes surfaces nues, basalte ou calcaire, du centre et du sud du massif, l'Aubrac, le Cézallier, les Planèzes, les Causses, tout ce qui subsiste d'intégralement exotique dans le paysage français me semble toujours cantonné là. C'est comme un morceau de continent chauve et brusquement exondé qui ferait surface au-dessus des sempiternelles campagnes bocagères, qui sont la banalité de notre terroir, tonsure sacramentelle, austère dans notre chevelu arborescent si continu, image d'un dépouillement presque spiritualisé du paysage qui mêle indissolublement à l'usage du promeneur, sentiment d'altitude et sentiment d'élévation. Cheminant grâce à l'auteur et l'éditeur de ce livre captivant, nous voici en Quercy et midi toulousain. Albert Camus y est venu, à Cordes notamment, au cours des étés 1953 et 1957. L'auteur de L'étranger livre son expérience admirative du lieu dans un texte intitulé « Cordes en albigeois ». On le lit en exergue de ce nouveau chapitre de « Mots et merveilles d'Occitanie ». On voyage pendant des années sans trop savoir ce que l'on cherche. On erre dans le bruit, empêtré de désir ou de repentir, et l'on parvient soudain dans un de ces deux ou trois lieux qui attendent patiemment chacun de nous en ce monde. On y parvient et le cœur se tait, on découvre qu'on est arrivé. Le voyageur qui, de la terrasse de Cordes, regarde la nuit d'été, c'est ainsi qu'il n'a pas besoin d'aller plus loin et que, s'il le veut, la beauté ici, jour après jour, l'enlèvera à toute solitude. Bien sûr, l'ami Claude Nougaro, ami de tous les Toulousains, ami des musiciens et du monde entier, pointe le bout de son nez et pousse sa chansonnette, qui est bien davantage d'ailleurs qu'une chansonnette. C'est un lyrisme enflammé, une réalité poétique, c'est-à-dire plus vrai que vrai et heureusement inamovible. Cette silhouette qui ne cesse de grandir est celle d'une émouvante cité historique et tellement contemporaine. Et là, Jean-Paul Azam de rappeler encore Nougaro, l'église Saint-Cernin illumine le soir d'une fleur de corail que le soleil arrose. C'est peut-être pour ça, malgré ton rouge noir, c'est peut-être pour ça qu'on te dit ville rose.
Ce qu'il faut dire de fadaise pour voir enfin du fond de son lit un soutien-gorge sur une chaise, une paire de bas sur un tapis. Nous les coureurs impénitents, nous les dons Juju, nous les dons Juan. Mais chaque fois que l'on renifle la piste fraîche du jupon, pour un baiser, pour une gifle, sans hésiter, nous repartons. La main frôleuse et l'œil luisant, nous les dons Juju, nous les dons Juan. Le seul problème qu'on se pose, c'est séparé en deux portions. 55 kilos de chair rose, de 55 grammes de nylon. C'est pas toujours un jeu d'enfant, pour un don juju, pour un don juan. Le mannequin, la manucure, la dactylo, l'hôtesse de l'air, tout est bon pour notre pâture, que le fruit soit mûr ou qu'il soit vert. Faut qu'on y croque avec le temps, nous les dons juju, nous les dons, dons, dons juan. Mais il arrive que le cœur s'accroche aux épines d'une jolie fleur, ou qu'elle nous mette dans sa poche sous son mouchoir trempé de pleurs. C'est le danger le plus fréquent pour un don juju, pour un don juan. Nous les gros coqs de tailleur, nous les gros croqueurs de souris, il faut alors livrer bataille ou bien marcher vers la mairie au bras d'une belle maman. Pauvre don juge, pauvre don juan. Nous tamiserons les lumières, même quand la mort viendra sonner, et nous dirons notre prière sur un chapelet de grains de beauté. En attendant le jugement, nous les dons juju, nous les dons juan.
Enfin, un dernier chapitre du livre intitulé « Les Pyrénées », le lecteur y est convié à ressentir l'air des montagnes, la griserie de l'altitude et les bonheurs du pyrénéisme, et toujours la voix de grands auteurs, amoureux des grands espaces, parmi eux Georges Sand, Alfred de Vigny, Théophile Gautier, et plus près de nous, Antoine Blondin, tel qu'en lui-même, mais triste, très triste, dans les colonnes du journal L'Équipe. Il raconte ce jour malheureux de juillet 1971, où un triste sort mit fin à la flamboyante carrière du coureur cycliste Luis Ocaña, durant l'étape Revel-Bagnères de Luchon. Il aura suffi que le ciel se couvre durant 20 minutes sur les Pyrénées, pour qu'un bref cyclone aux dimensions d'un cataclysme couche au sol notre bel épi gorgé de lumière. Au moment où l'arc-en-ciel s'annonça, Ocaña gisait dans l'ambulance et les habitants de Saint-Béat applaudissaient en pleurant au passage de son convoi terriblement silencieux. Et maintenant, c'est une grande dame du XIXe siècle qui aura le dernier mot, une écrivaine prolifique s'il en fut, Georges Sand, écrit à son ami Flaubert.
Es-tu en route pour les Pyrénées ? Ah, je t'envie, je les aime tant. J'y ai fait des courses insensées, mais je ne connais pas Luchon. Est-ce beau aussi ? Tu n'iras pas là sans aller voir le cirque de Gavarni et le chemin qui y conduit. Et Cotteret, et le lac de Gaube, et la route Saint-Sauveur. Mon Dieu, qu'on est heureux de voyager, de voir des montagnes, des fleurs, des précipices.
Chères auditrices, chers auditeurs, cette émission touche maintenant à sa fin. Des pauses musicales vous ont été offertes au cours desquelles vous avez pu entendre Georges Brassens dans « Supplique pour être enterré à la plage de Sète », puis de Beethoven, un extrait de la symphonie numéro 6, dite pastorale, par l'Orchestre symphonique de Boston, dirigé par Leonard Bernstein, et aussi Claude Nougaro et Guy Marchand dans Les Dons Juan. Enfin, Déodat de Sévrac, interprété par Aldo Ciccolini, dans un extrait de la suite pour piano intitulé En langue d'oc. Nous vous remercions d'avoir écouté cette émission qui a été possible grâce à la coopération technique de Léo Touroult et la mise à disposition des moyens radiophoniques par l'équipe de direction de la station, à savoir ses présidents Jacques Lavergne et Jean-Luc Palévaudy. Merci aussi à Catherine Juge-Touroud d'avoir prêté sa voix à Georges Sand.